Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui avec moi dans le studio, Christine Haas et Georges Griot de l'association nationale Réaction en chaîne humaine qui sont venus annoncer un certain nombre de chaînes préparatoires pour sortir du nucléaire. Sachant que ce débat du nucléaire est toujours un tantinet escamoté en France. Quand je dis un tantinet, c'est un euphémisme. Donc ils sont venus parler de nucléaire et des raisons pour lesquelles nous pourrions éventuellement envisager d'en sortir. Christine Haas et Georges Griot, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Bon, on parlera en fin d'émission des détails concrets, à savoir à quelle date vous proposez, est-ce que les gens s'associent pour manifester leur envie de sortir du nucléaire. On pourrait peut-être commencer par un débat. Est-ce que vous pourriez nous lister, nous faire frémir, pourquoi devrait-on absolument sortir du nucléaire de nos jours?
Parce que la France est le plus nucléarisé pays du monde avec 58 réacteurs. Il y a des centrales qui sont plus que 30 ans. Et comme on n'a pas des matériaux immortels, comme le béton par exemple avec des fissures, il y a assez de soucis. Ça c'est un côté. L'autre côté, c'est le nucléaire, c'est une manière de production d'énergie qui est le plus dangereux du monde. Maintenant, dans les années 70, quand ça a commencé en France, d'un côté, c'était lié au créer la bombe atomique aussi. Le nucléaire était toujours en lien avec l'énergie et le militaire. Mais maintenant, on a d'autres possibilités de production plus performantes, de produire l'énergie, comme les éoliennes, comme les panneaux voltaïques. Le solaire thermique existe maintenant. Et comme ça, on a d'autres possibilités de produire sans mettre en danger l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Et il y a déjà le grand problème des déchets. C'est une question qui n'est pas résolue. Il y a dans aucun pays du monde une solution. Et nous, on voulait absolument une arrêt nucléaire avant une accident et non pas, comme tout le monde nous dit, mais en France c'est comme ça, les Français ils attendent la catastrophe. Mais comme je travaille dans un métier médical, on fait toujours la prévention et je comprends pas du tout pourquoi on fait la prévention pour une vie d'une personne, par exemple pour le cancer, mais on fait pas la prévention pour un pays. C'est toujours la discussion en disant ah ouais, c'est la politique. Mais la discussion du nucléaire, pour nous, c'est pas du tout une question de politique. Les décisions, c'est la politique. Mais la discussion, c'est une discussion pour la vie.
Alors, je fais mon béotien, mais ouais. Apparemment, d'après ce que nous disent les tenants de l'industrie nucléaire, à savoir les différents gouvernements, c'est que quand bien même ces réacteurs seraient trentenaires, voire quarantenaires, ils sont parfaitement sécurisés. Alors, détrompez-moi.
C'est faux. C'est faux parce que depuis des années, nous avons une multiplication des incidents de niveau 1. C'est la SN qui a défini une échelle de gravité des incidents. Et c'est vérifiable. Elle communique d'ailleurs souvent sur ces incidents. Et elle met en cause les exploitants concernés. Il faut savoir qu'il y a aussi des micro-fissures dans les cuves. Et il y a aussi, parmi ces incidents, il y a souvent des blocs électriques qui tombent en panne. Des défaillances, en fait.
C'est très redondant, quand même. Il y a des systèmes de secours qui se mettent en place, théoriquement.
Oui, mais justement, c'est souvent ces systèmes de secours qui tombent en panne ou des groupes électrogènes ou autres.
Mais on a malheureusement des mauvais exemples. On a le dernier, c'était Fukushima. Japon est un pays, comme tout le monde le sait, assez performant au niveau technique. Là, c'était aussi des problèmes climatiques, des catastrophes naturelles qui se rajoutaient. Mais aucun pays à l'abri d'une catastrophe naturelle. Et on a Tchernobyl, on ne peut pas dire que les accidents qu'on a eu jusqu'à maintenant, 1957 à Mayak, on a une liste des accidents et je pense que c'est très gonflé et très arrogant de dire que la technique est parfaite. Tout le monde connaît ces petits problèmes avec la cafetière ou avec la radio et les centrales nucléaires, c'est une question technique, avec une dangerosité qui est quand même plus dangereuse que ma cafetière quand elle explose.
Il y a des matières fissiles nucléaires donc, qui sont employés, comme le plutonium, qui sont difficiles à manipuler. Et pour cela, l'environnement a toujours des risques d'être impacté. Quoi qu'il...
Et le grand problème, c'est la réaction nucléaire qui est en route. Ce n'est pas quelque chose où votre frigo, vous pouvez arrêter. Vous tournez le bouton à zéro et c'est arrêté. Pour arrêter, par exemple, un réacteur nucléaire sans catastrophe, il faut 40 ans. On sait maintenant, c'est très difficile déjà le démantèlement, mais aussi pour réduire l'énergie petit à petit. C'est un processus qui est assez difficile, assez long, et il faut le surveiller tout le temps. Ça veut dire, par exemple, en Allemagne, maintenant, ils ont beaucoup de soucis parce que les jeunes étudiants ne sont pas intéressés de choisir les études dans le cadre du nucléaire. Alors, il y a déjà un manque des ingénieurs qui sont spécialisés sur le nucléaire, et on a le besoin minimum encore 40 ans, et je pense que les 40 ans, ce n'est pas assez long. On a vraiment besoin des ingénieurs performants pour arrêter une centrale. Et nous, notre association, on a toujours l'impression, le problème, c'est pousser pour les générations futures, mais il n'y a vraiment pas des réponses.
Donc, si je vous écoute, il y aurait de la part de nos gouvernants et de nos industriels une volonté manifeste de nous aveugler, une minimisation certaine des risques afférents à cette technique.
Voilà, pour couconner tout le monde, en principe en disant « c'est propre ». Ça, c'est la première information faux, parce que le nucléaire n'est pas propre du tout. Vous avez une production de CO2 assez importante déjà avec les chantiers pour créer les réacteurs, pour créer le central nucléaire. Après, vous avez aussi, avec une centrale qui est en route, vous avez la production de CO2 qui est quand même, c'est sûr, c'est moins qu'une centrale au charbon. Et ça, c'est jamais discuté. Vous avez une production de CO2 énorme avec les mines d'uranium. Parce que le problème, c'est quand la quantité d'uranium baisse dans le rocher qui est creusé, si la quantité d'uranium baisse, vous avez plus en plus de CO2 qui se libère pour trouver l'uranium. Et ça, c'est comme le fuel, c'est comme le charbon, ce sont des matières premières qui baissent parce qu'on exploite cette planète au maximum et on a déjà les réponses.
Sans compter les maladies professionnelles sur les mines d'uranium, il faut aller voir les problèmes qu'il y a eu au Niger. Puisque c'est le cas des exploitations d'Areva.
Donc en fait, les gens qui exploitent l'uranium là-bas souffrent de maladies professionnelles.
Voilà.
Oui. Et des cancers, oui. Ouais, ouais. Il y a de l'eau qui est polluée. C'est énorme, là, les problèmes. Et ici, on ne le discute pas. Notre richesse, comme dans beaucoup d'autres filières, notre richesse en Europe, c'est lié aux catastrophes naturelles dans les autres pays.
Vous qui avez l'air d'être au courant, vous avez parlé de catastrophes qui seraient souhaitables qu'on l'évite. Qu'en est-il de la gestion de Fukushima en ce moment? Vous avez des informations dignes de ce nom?
Oui, la situation est très difficile. Il n'y a rien résolu. Il y a des tas de sacs plastiques avec la terre où ils ont contaminé. Mais ils sont à côté des routes, ils sont partout dans les villages. Le gouvernement japonais est assez flou pour informer la population comme il faut de la contamination réelle. Ils commencent à déménager les gens dans les zones qui étaient fermées.
Qui sont soi-disant décontaminées. La polémique est à ce niveau-là déjà.
Et le problème, c'est aussi les hotspots. Le problème, c'est que vous pouvez, au Japon, autour de 200 km de Fukushima, trouver des villages, vous avez 10 mètres de voie à droite, vous n'avez rien, et 10 mètres à gauche, vous avez une contamination assez importante. On dit que ce sont des hotspots, ça veut dire directement après la catastrophe, c'était la pluie et en montagne, c'était la neige. Et avec le vent, il y a la radioactivité qui se collait avec l'eau et la neige. Et il y a des endroits où il y a plus de la neige ou de l'eau qui est tombée. Et la situation est catastrophique. Les tumeurs et les kystes dans la glande thyroïde des enfants, ça a augmenté énormément. Je ne suis pas absolument sûre, mais les derniers chiffres que j'ai lus, c'est déjà plus que 25%.
Et dans le démantèlement de la centrale, avance-t-il ou pas? Est-ce que justement, c'est ça un peu qui fait peur?
Non, ils ont eu beaucoup de problèmes de fuite d'eau.
De fuite d'eau, oui.
Il y a des cuves de stockage d'eau. Et ce sont des citernes qui ont été faites rapidement parce qu'il y avait urgence. Et donc, ces citernes se sont mises à fuir et sont allées contaminer le sous-sol. Et ces eaux ont ruisselé jusqu'à la mer. Donc, il y a double contamination. Et ils cherchent... Alors, les techniciens là-bas, d'abord, ils travaillent souvent avec des robots, tellement la radioactivité est élevée.
Et qu'en est-il aussi de la fusion incontrôlée qui se passe dans les réacteurs? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait le cœur qui a fondu. Mais est-ce que justement la fusion a toujours cours ou pas?
Alors sûrement, comment elle peut s'arrêter toute seule? Et le gouvernement, comme ils n'ont pas la situation sous contrôle, ils contrôlent ça en vis-à-vis du public de ne pas parler. C'est très courant de si on ne peut pas dire des choses positives, on ne dit rien. Mais il n'existe aucune explication comment c'est possible d'arrêter une
réaction nucléaire.
Oui.
Donc en fait, elle continue d'irradier en fait.
Oui, bien sûr.
C'est un peu ce que je disais là, tout à l'heure. C'est que, en fait, ce sont le problème des nappes phréatiques qui sont dans le sous-sol autour de Fukushima et sous Fukushima qui sont directement impactées. Et je crois que leur dernier objectif, c'est de construire une enceinte gazéifiée, je crois, qui entourerait complètement la centrale.
Sous le sol aussi.
Voilà, de façon à l'isoler. Mais c'est encore un projet qui présente des risques. Donc finalement, rajouter des risques aux risques radioactifs déjà existants, et c'est toujours repoussé plus loin. Il y a apparemment, c'est l'évidence, c'est que les solutions techniques n'étaient pas là. Et celles qui sont trouvées, elles sont toujours dans l'urgence et bien à la mesure de nos connaissances actuelles.
Et il ne faut pas oublier que le Japon, c'est des îles. Alors vous avez le Pacifique autour. Ça veut dire qu'il y a une pollution énorme dans le Pacifique. Et comme tous les mers du monde communiquent, c'est un problème qui n'est pas isolé au Japon. Et voilà. Et maintenant, je pense que les Français sont demandés d'acheter le riz de Fukushima pour la solidarité parce que la radioactivité, ils ont trouvé dans le riz de Fukushima, il est assez bas qu'on peut le supporter. Mais je pense que c'est un peu la rigolade parce que depuis les années 80, il existe des études pour le développement d'un cancer. Les taux de radioactivité bas sont plus dangereux pour les cellules qu'un coup de radioactivité, non pas une radiation complète, mais d'une radioactivité qui est pour quelque temps très haut et qui baisse rapidement. Le problème, c'est quand la radioactivité reste bas, mais il est en continuité, c'est très logique, ça attaque le système immunitaire et fragilise toute la situation du corps.
Peut-être qu'on pourrait revenir un peu, parce que vous en avez parlé à plusieurs reprises,
oui,
de la communication. Parce que c'est souvent l'axe que le combat se gagne. La population un peu léthargique se laisse faire. Bon, elle aime bien son électricité. Apparemment, on nous vend le fait que le nucléaire, c'est sûr. Y a-t-il des moyens de se renseigner de façon objective?
Il existe une association qui s'appelle la CRIRAD, qui a son siège à Valence, dans la Drôme, et qui est intervenu sur nombre de foyers, aussi à La Hague, pour faire des mesures. C'est un laboratoire indépendant, donc il y a des scientifiques de haut niveau qui y travaillent, et tout est vérifiable. Ils sont, entre guillemets, en concurrence avec les labos officiels, et je pense qu'ils amènent une réponse citoyenne à ce type de demande, quoi.
Que disent-ils au juste aussi? Ils seraient pour l'arrêt du nucléaire, je suppose?
Oui, bien sûr.
Donc indépendant, mais engagé.
Oui, mais le problème, c'est, je pense, ça, c'est un peu la stratégie. Si vous voulez vous détruire vos ennemis ou vos contradicteurs, la première chose, c'est dire ils sont pas corrects, ils sont pas objectifs, c'est pas la vérité. Et après, c'est les nouveaux personnels où on peut créer des malentendus, on peut créer démonter vraiment la personnalité. Et je pense là, on va pas rentrer dedans parce que moi, je suis pas du tout une militante comme ça. Je vis ici, je veux vivre ici, j'adore la France. Et ça me rend malade, ça me fait triste quand je vois que la population n'est pas informée comme il faut. Et il y a dans le monde, il y a beaucoup de scientifiques qui sont pas du tout politiques, qui sont pas du tout dans une manière de militantisme comme nous. On est un peu pressé dans le militantisme complotisme parce qu'on n'a aucun autre moyen de se articuler. Si on ne fait rien, on est comme les autres, on subit. Et je pense que c'est automatiquement, quand on ouvre la bouche pour donner une information, on est déjà classé comme militant. Et il existe aussi des émissions des journalistes où je suis sûr, ils essaient une objectivité au maximum, comme cette émission de Arte sur les risques et les problèmes de démantèlement, ce qui s'est passé déjà deux fois. Et j'aime bien aussi annoncer qu'il y a le Science et Vie, c'est un journal qui n'est pas militant d'une manière aveugle, sur un côté. Et cette année, mois de septembre, alors ce mois-là, ils ont leur journal se... informe sur comment la France se prépare pour un accident nucléaire. Et moi, personnellement, j'étais très choquée des informations. Et je pense qu'il y a plus en plus des journalistes, des personnalités, des scientifiques qui ont peur.
Je veux rajouter le livre qu'a sorti en novembre 2013 Dominique Le Glu, qui est rédactrice en chef de Science et Avenir, où elle a repris tous les arguments techniques, puisqu'elle est physicienne nucléaire, et elle a repris tous les arguments techniques d'Areva, et elle les a passés au crible, et elle dénonce en fait toutes les contradictions et tous les manquements de ces arguments sur un plan scientifique et technique.
Et par exemple ?
Oh ben, je ne les ai pas en tête. Hein,
sur la sécurité de ces installations, parce que j'ai l'impression que ce qui vous fait le plus peur, c'est l'accident.
Non, pas seulement, c'est l'accident, mais c'est aussi l'avenir, parce que si on réfléchit un petit peu, on sait bien, si on continue avec le nucléaire, on produit plus en plus de déchets. On a déjà trop de déchets, où il n'y a aucune solution pour les déchets pour le moment dans le monde. Ni en Allemagne, tout ce qu'on a essayé, ni en France, c'est vraiment marché. Il y a toujours des problèmes avec les stockages souterrains, la corrosion, l'eau, tout ce que vous voulez. Nous, on a une planète avec des plaques terrestres qui sont autour. Il y a un noyau chaud. Et jusqu'à maintenant, on a eu beaucoup de matériaux qui sont dans cette planète. Et on pompe, on enlève le gaz, on enlève le fuel, on enlève beaucoup de charbon, des matières fissiles. Alors, si vous imaginez votre maison, vous avez une cave qui est bien construite. Et quelqu'un arrive et enlève des poutres dans la cave, qui sont des poutres qui sont importantes pour la statique. Alors, peut-être je suis un peu naïf, mais pour moi, ça pose des problèmes énormes. Alors, ce n'est pas vraiment une question d'accident seulement, c'est une question qu'on produit plus en plus des déchets qu'on ne peut pas gérer, on n'a aucune solution. Alors, pour moi, c'est plus logique de dire, OK, on a d'autres possibilités pour produire l'énergie. À ce moment-là, il faut arrêter avec les projets prévus, comme c'est notre démarche pour le 14 mars 2015, entre Tricastin et Cadarache, de dire nous, nous ne voulons pas les nouveaux projets. Ça veut dire, par exemple, à Marcoul, c'est bien avancer le projet Astrid pour une Super Phoenix. C'est le même type de réacteur qui était à Grimalville, qui était arrêté après 9 ans de production à cause des soucis. Nous ne voulons pas des projets comme à Cadarache, où la filière nucléaire essaye de reproduire la réaction nucléaire. Le soleil, c'est une réaction nucléaire pour produire l'énergie. C'est jamais marché dans aucun pays. L'Allemagne a essayé cette manière de produire énergie 25 ans. Ils ont arrêté parce qu'ils ont dit que c'est trop dangereux, on n'arrive pas. Et en Finlande, il y a plusieurs d'autres pays où c'était déjà une dizaine d'années ce projet. Mais en France, en cadrage, on continue, pour 16 milliards d'euros. Et les 16 milliards d'euros et toutes les subventions européennes qui rentrent dans le nucléaire, on a vraiment besoin pour d'autres choses. On a le besoin pour créer des emplois. On discute toujours les emplois dans le nucléaire. Mais quelle bêtise! Ah, bien sûr, il y a des emplois. Mais les gens qui travaillent du nucléaire, on a besoin minimum les prochaines 40 ans. Alors, il y a minimum 2 générations des gens qui adorent le nucléaire qui peuvent travailler dedans. Mais ça ne crée pas de nouveaux emplois. Et on a besoin des emplois avec un taux de chômage en France, avec une crise comme ça. Nous, notre association, comme beaucoup de gens, on ne comprend pas du tout pourquoi le gouvernement n'a pas le courage de vraiment changer le cap, comme par exemple en Allemagne, de dire « on y va, on va créer quelque chose, on va aller vers l'avenir et non pas avec une valise mortelle ».
Je veux rajouter plusieurs choses. Pour répondre à Christine, pourquoi le gouvernement ne change pas de politique ? Parce qu'il y a des investissements énormes et que le nucléaire est aussi un argument d'exportation économique. Il faut vendre nos centrales dans le monde. Comment vendre les centrales si effectivement elles sont dangereuses ? C'est un cycle sans
fin. Ce ne serait pas cohérent.
Voilà. Pour revenir sur Marcoule, expliquer le projet Astrid rapidement, c'est un prototype de surgénérateur qui succède à Phoenix et à Super Phoenix. Alors pour mémoire, Super Phoenix qui était au-dessus de Grenoble, là, c'est un surgénérateur qui a fonctionné entre guillemets pendant 20 ans, qui a coûté des milliards et des milliards. Il y a quand même eu une manifestation importante en 1976, je crois. Il y a eu un mort. C'est vraiment un très mauvais exemple. Et donc, c'est reprendre ce type de filière. C'est un réacteur à neutrons rapides dont la caractéristique principale est d'utiliser le plutonium, qui est l'élément le plus dangereux issu de l'industrie nucléaire, qui, associé au sodium comme fluide colporteur, fait que la filière Astrid est excessivement dangereuse dans tout son cycle. Voilà pour Astrid. Maintenant, pour le centre d'études nucléaires de Cadarache, qui est un projet expérimental sur la fusion. Or, actuellement, toutes les centrales nucléaires utilisent la fission. Là, c'est la fusion. L'objectif, c'est bien ce qu'a expliqué Christine, c'est de reproduire la fusion thermonucléaire identique au Soleil. Le problème, c'est qu'il faut maîtriser cette réaction. Alors déjà, le coût. ITER coûtera 16 milliards d'euros, ce qui est
gigantesque.
Oui, gigantesque. C'est un projet très controversé. Et pour préciser un peu, il faut disposer de 500 mégawatts simplement pour démarrer ITER, fourni par l'ensemble du réseau pendant une dizaine de secondes pour chauffer le nuage de deutérium et de tritium qu'il contient. Il faut quelques dizaines de mégawatts pendant 400 secondes. Enfin, de façon permanente, l'installation a besoin de 120 mégawatts. Sur le démarrage de ITER, il y a eu une polémique avec le préfet de la région PACA. C'est tiré de France 3 Méditerranée le vendredi 5 mai 2006 au JT de 12h. C'est une interview de Christian Frémont. Alors il dit « Si on avait fait le débat avant la décision de construction, la France n'aurait pas pu poser sa candidature pour obtenir ITER. Selon toute vraisemblance, on aurait cherché un pays un peu moins compliqué que le nôtre qui aurait dit oui ou non tout de suite. » Voilà. Ce qui a permis de chanter, entre guillemets,
le débat. Alors, c'est vrai que quand on pense à un débat démocratique, ce n'est pas ce qui caractérise effectivement la France en ce qui concerne le nucléaire. Mais alors, Christina, c'est la deuxième fois que vous venez ici. Et rappelez-vous, je vous avais branché parce que peut-être serions-nous d'accord sur le fait que le nucléaire, c'est non seulement dangereux, ça produit des déchets pas terribles, on ne sait pas comment l'arrêter. Enfin, il y a plein de choses qui font un peu frémir. Ok, alors... imaginons le cas de figure où nous nous lancerions dans autre chose. Et là, je vous avais balancé ce contre-exemple de l'Allemagne qui patauge un peu dans sa courageuse décision de se lancer dans autre chose et qui, peut-être à l'époque, vous m'aviez dit temporairement, produit un peu plus de CO2, mais c'est du transitoire, car eux, au moins, ils préparent l'avenir. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous annoncer quelques chiffres ou en tout cas quelques précisions sur cette décision de l'Allemagne de se passer du nucléaire ? Quelles sont les conséquences sur le moment et sur l'avenir ? Et quelles sont les conséquences sur l'emploi, sur la qualité de l'air ? Enfin, un certain nombre de conséquences.
Alors, c'est une bonne question juste maintenant parce que les derniers chiffres de début de cette année, les premiers 6 mois de 2014, sont juste sortis de c'est la commission énergie du gouvernement. Et ils ont marqué là, et c'est, pour moi, c'était aussi une bonne surprise, ils ont diminué jusqu'à maintenant dans les premiers 6 mois le nucléaire de 2%. Encore une fois, ils ont diminué les centrales de charbon en 12%, ils ont diminué aussi la lignite en 15% et ils ont augmenté l'énergie solaire à 27% et ils ont augmenté dans les 6 mois de cette année tout ce qui est solaire, production d'énergie solaire, alors panneaux voltaïques, mais aussi le solaire thermique pour l'eau chaude chaude des lotissements, pour les chauffages de lotissements, de 21%. Alors, moi, dimanche, je suis juste revenue en France d'une semaine en Allemagne où j'ai fait vraiment le trajet entre Fribourg, alors le sud, jusqu'au l'est, jusqu'au nord, jusqu'à la frontière danoise. Et je suis retournée en France pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le pays. Et c'est impressionnant. Il y a des grands champs, des éoliennes qui se créaient à des endroits qui étaient des endroits un peu morts. Par exemple, avant Leipzig, si vous connaissez un peu l'est, c'était avant la chute du mur, pendant la période de GDR, une zone très industrielle, mais l'industrie qui n'était pas à point. Ça veut dire que c'est des hectares de terrains qui étaient pollués au maximum du pétrochimie, de l'industrie pharmaceutique. Et c'est tous arrêté, démonté. Et là, par exemple, ils ont créé une champ d'éoliennes de 150 éoliennes. Et c'est beau. Moi, j'étais un peu réticente parce qu'il faut bien réfléchir où on plante, par exemple, une champ d'éolienne. Mais là, c'était presque comme dans un jardin d'enfants. Vous avez beaucoup d'éoliennes avec des couleurs différentes qui sont tous déclinées un peu différemment pour vraiment travailler jour et nuit aussi avec le minimum du vent. Et vous trouvez maintenant dans toute l'Allemagne, à côté de l'autoroute, des champs éoliennes. Et ça, c'est très bien parce que ça ne détruit pas la nature ou le pays, comme quand vous avez des champs d'éoliennes aussi, 2, 3, 4, n'importe où, dans la forêt, dans les crêtes, ça, c'est pas beau du tout parce que ça détruit vraiment. Mais quand vous avez des concentrations d'éoliennes comme ça à des endroits qui sont déjà pas favorables pour d'autres choses, vous pouvez pas habiter là, vous pouvez pas, avec la pollution du sol, vous pouvez pas faire l'agriculture. Et en plus, c'était intéressant parce que là où il y a des champs éoliennes, il y a la nature qui reprend un peu le terrain. La chose qui ne m'a pas plu du tout, c'était des panneaux voltaïques posés par terre au sud. Mais par exemple, partout en Allemagne, tous les grands hangars agricoles, tous les bâtiments des écuries agricoles sont vraiment pleins des panneaux voltaïques. Et c'est un peu comme une tuile noire, c'est pas vraiment quelque chose qui choque. Et la production, c'est assez important. Là, j'ai vraiment l'impression, maintenant, on voit le pays fait son chemin. Le grand problème, ce sont encore les réseaux. Il existe une demande du... parce que jusqu'à maintenant, l'Allemagne du Sud a produit plus d'énergie pour la envoyer au Nord. Le sud, c'est toujours la région la plus riche. Le nord, c'était toujours très pauvre. Maintenant, ça va changer parce qu'il y a plus de vent au nord. Et il n'existe pas les réseaux pour envoyer l'électricité du nord au sud. Et là, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a beaucoup d'emplois qui se créent autour. C'est trop bien. Alors, avoir du travail, c'est toujours une bonne chose. Et... Il y a aussi un grand souci pour le moment. C'était juste la décision de E.ON et d'autres grandes entreprises d'électricité qu'ils ont renoncé à la demande du gouvernement de participer aux frais pour le démantèlement des centrales. Alors là, il y a un grand conflit qui se produit parce que le gouvernement, il y a un contrat. Il y a un contrat où E.ON et RWE et d'autres grands comme EDF un petit peu, qui sont, c'est obligatoire qu'ils payent en part de cet arrêt du nucléaire. Et ils ont juste expliqué non, ils ne font pas, ils attendent le procès. Voilà.
Bon, en fait, le sens de ma question, c'était de vous poser la question. Vous qui vous sentez éminemment concerné, il est donc possible de sortir du nucléaire si on arrivait à juguler le pouvoir des lobbies, par exemple. Hein. Ne serait-ce qu'il est possible, concrètement, économiquement, sans renoncer à de l'électricité, de sortir du nucléaire.
Ah oui. En plus, en France, la France a plus de soleil, plus du vent.
Il faut donc qu'il y ait des décisions politiques pour mettre en route une transition énergétique. Ce qui s'est fait en Allemagne assez rapidement. Mais il faut qu'il y ait une volonté politique. Si elle n'y est pas, si c'est repoussé, hein, comme ça a été fait avec le dernier débat, Fessenheim qui devait fermer, qui n'est toujours pas fermé.
la dernière décision d'augmenter, c'est incroyable, augmenter les énergies renouvelables de 2%, 2% jusqu'en 2050. Ça, c'est la dernière annonce de Ségolène Royal. Et là, on ne comprend rien. On ne comprend vraiment rien parce que ça montre bien qu'il n'y a pas la volonté de s'investir ni dans les emplois dans cette filière, ni de quitter le cercle.
Je ne peux qu'être d'accord avec vous, c'est même attristant.
Oui, des problèmes graves dans les bâtiments et des problèmes graves de la sécurité. Il y a 4 en Belgique qui sont arrêtés à cause des fissures dans le béton autour du réacteur. C'est aussi des centrales EDF. Et là, on ne comprend rien pourquoi ils n'essayent pas. Je sais que c'est très tard. C'est très, très tard. Il y a beaucoup de l'argent dans la filière nucléaire. Mais si on attend, on attend quoi?
Le problème qu'il y a surtout en France, ce sont l'utilisation de vieilles centrales pour lesquelles la durée de vie est prolongée arbitrairement de 10 ans. Et ça génère des surcoûts parce qu'il faut rénover des installations. En plus, il y a eu des normes qui ont changé suite à l'accident de Fukushima. Et il a fallu faire des travaux antisismiques ou par rapport à d'éventuels raz-de-marée, notamment dans la vallée du Rhône. Et finalement, je crois qu'au niveau français, il faut s'interroger quel est le coût réel du kilowatt. Il n'est pas celui auquel on pense. Peut-être Christine, si tu as des données.
En prenant le compte, effectivement, ce fameux coût de démantèlement dont on n'ose jamais parler.
Aussi.
Voilà, oui. C'est-à-dire que le coût du kilowatt nucléaire est censé être relativement bas, mais comme ils ne veulent pas parler du coût de démantèlement, il est faussé ce coût donc.
Et aussi l'argument, par exemple, en France, ils disent toujours que les Allemands achètent l'énergie nucléaire ou l'électricité en France. Depuis 15 ans, ce n'est pas le cas. Alors, c'est vraiment un mensonge. Et la deuxième information en France, c'est que le coût de kilowatt en France, c'est très bien. Il est très bas et en Allemagne, c'est il faux. Est très haut parce qu'il y a l'énergie renouvelable maintenant. Ce n'est pas du tout vrai. Il y a une taxe éco depuis 12 ans. Qui a augmenté le prix du kilowatt, mais le prix est en train de baisser. Il va baisser l'année prochaine de 4 centimes parce que les énergies renouvelables, déjà, qui posent moins des frais, moins des investissements, baissent déjà le prix du kilowatt. Là, il y a des choses, il ne faut pas tous croire.
J'ai entendu dire qu'effectivement, la rentabilité des cellules photovoltaïques était en train d'arriver à maturité. Ça devient vraiment... Ils arrivent avec des taux de conversion de 20% de l'énergie solaire, ce qui est déjà pas mal. Avec certaines, ils arrivent à 25%, mais ça pas pour tout de suite. Ce qui fait que, tout à fait, on a une vraie solution combinée avec les éoliennes, les hydroliennes éventuellement. Enfin, il y a de quoi faire. C'est sûr qu'on devrait passer à ça, mais alors que faire cette inertie? Ce poids des lobbies, ça fait peur, ça fait un peu froid dans le dos.
Seulement un petit exemple de la France, de la région. Moi, je suis élue dans la communauté de communes de Vernoux. Et là, depuis le mois de septembre, on est un projet TEPOS, comme ici a dit, à Cré. Et on a demandé des études, combien on a besoin pour remplacer ou pour produire notre propre énergie. Parce que TEPOS, ça veut dire territoire énergie positive. Et jusqu'au 2025, on va essayer de produire l'énergie qu'on consomme. Et jusqu'au 2050, produire assez pour le vendre. Et si on imagine ça, nous sommes 7 communes avec 3775 habitants. Et pour nous, cela suffit. Par exemple, 5 éoliennes. Si on a 7, c'est mieux parce qu'on peut déjà vendre. Et assez de surface sur les bâtiments existants avec des panneaux voltaïques aussi sur les bâtiments publics. Alors, si on fait les démarches dans un pays qui est tellement ensoleillé, qui a beaucoup des énergies renouvelables, c'est encore plus facile que pour l'Allemagne. Et parce qu'en Allemagne, si vous êtes au nord de l'Allemagne, alors il y a 25% moins du soleil qu'en France.
Moi, je citerai le village où j'habite, où il y a 3 hangars agricoles couverts de panneaux photovoltaïques et nous sommes excédentaires en énergie. Donc, c'est vraiment pas compliqué, en fait.
Oui, c'est ça.
Je me mets à spéculer, on changerait quelques réglementations pour autoriser plus facilement la pose de panneaux un peu partout, par exemple dans le centre-ville, et on remplacerait un certain nombre de toitures par des panneaux, et on serait relativement facilement avec une production d'énergie suffisante pour un certain nombre d'usages.
Juste rapidement, le problème en France, c'est que je crois que les subventions ont baissé. pour l'implantation des panneaux. Et que donc, là aussi, c'est un fait politique. Il y a eu, pendant quelques années, des encouragements fiscaux. Je veux dire, baisser les incitations, c'est effectivement freiner la démarche, quoi.
Alors, ils ont dit que ça coûtait trop cher, mais je crois que le vrai problème de la France, c'est que c'est un pays tellement centralisé et qui adore ses ingénieurs. Donc, ils adorent les gros projets, les grosses usines à gaz. Et donc, ça ne donne pas vraiment de travail à des gens, au point de vue matière grise, à d'installer des panneaux photovoltaïques. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait une caste de technoscientistes qui construisent des grosses usines à gaz qui nous rendent dépendants, et on peut pas nous être autonomes avec notre production ici artisanale. Ça les intéresse pas. On est un peu dépendant des technoscientistes, en fait. Il faudrait pas leur couper la tête, car j'en serais pas là, mais ouais. Il faudrait au moins leur dire, écoutez, on a d'autres solutions.
Oui, et de dire, nous attendons que vous êtes avec nous et non pas... Parce que moi, j'ai mon rêve. Mon rêve, c'est vraiment que les communes, que les structures, comme une petite résistance énergétique, qui commencent à développer leur propre projet local, et tout à coup, tout ce qui est central, c'est vide dessous, parce que les gens, ils ont trouvé déjà des solutions. Ça, c'est mon rêve.
D'autant que apparemment, ce qui est très compliqué avec une centrale, vous le disiez tout à l'heure, c'est de l'arrêter. Mais aussi, si le courant d'une centrale, si on veut faire sauter tout le réseau, c'est de ne plus trouver d'usage à l'énergie d'une centrale. Elle explose, enfin,
oui,
si j'ai bien compris.
C'est mon rêve.
Enfin, il faudrait pas que ça explose. On n'en ait plus besoin.
Non, oui, voilà.
Voilà. Peut-être à bout de ces débats sur lesquels, en fait, j'ai fait semblant de ne pas être d'accord avec vous, nous pourrions passer aux considérations concrètes. Alors, vous essayez de faire en sorte de sensibiliser la population française grâce à des chaînes humaines. Donc un certain nombre de préparatoires qui annoncent une grosse manifestation le samedi 14 mars. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler des détails? Comment ça se passe?
Voilà.
Et quand ça se passe?
Alors peut-être vous êtes encore au courant. En 2012, on a eu la grande chaîne humaine dans la vallée du Rhône entre Lyon et Avignon. Et comme là, on a eu aussi des chaînes préparatoires sur le trajet pour informer les citoyens pour se donner la main et venir avec nous. Et c'est en principe la même démarche. On a eu déjà le 27 juillet une chaîne humaine à Avignon. On a prochainement, et ça c'est la raison pourquoi on est là aujourd'hui, samedi le 20 septembre, en lien, en coopération avec Havas, parce que là il y a aussi le marche climat, on a la chaîne humaine à Valence, 14h, place du Champ Mars. Et après, on a samedi le 29 novembre, 14h, à Aix-en-Provence, cours Mirabeau. Et samedi le 31 janvier, c'est le dernier chaîne préparatoire avant la grande chaîne humaine le 14 mars 2015 à 14h entre Tricastin et Cadarache. À Marseille, c'est à 14h aussi, quai de Belge. On a gardé les 14h pour que ça répète vraiment le 14 mars, 14h, voilà. Et c'est pour informer et pour attirer les citoyens de voir que ce n'est pas une question de militantisme. C'est pas une question que la question du nucléaire, ce n'est pas une question pour un petit groupe. C'est une question de chacun et chacune, et c'est une question de l'avenir de nos enfants.
Peut-être un numéro de téléphone ou un site internet sur lequel on pourrait avoir des informations? Parce que je vois aussi des histoires de covoiturage pour s'organiser à y aller ensemble, etc.
Oui.
Alors comment fait-on?
Alors, on a notre site chaînehumaine.fr. Là, vous trouvez les liens. On a créé sur Blablacar une page chaîne humaine. Et là, les gens peuvent se connecter pour se trouver, pour aller aux chaînes. On a aussi un numéro de téléphone. C'est le 07 77 20 27 71. Et pour répondre à toutes vos questions.
Je veux juste rajouter pour préciser le trajet de la grande chaîne humaine du 14 mars 2015. Elle part du complexe nucléaire du Tricastin, c'est-à-dire autour de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Et ce complexe, il faut savoir qu'il accueille 4 réacteurs qui ont dépassé 30 années de fonctionnement depuis 2010 et qui, de ce fait, cumulent de nombreux risques d'accidents nucléaires majeurs. Bon, vétusté, usure des composants, inondations, tremblements de terre, plus utilisation d'un personnel de sous-traitance non qualifié et trop souvent en turnover, pour cause. Et cette chaîne, elle va passer à côté du centre nucléaire de Marcoule pour arriver jusqu'au centre d'études nucléaires de Cadarache.
Ça va arrêter à Mirabeau parce qu'on ne cherche pas le conflit, on ne cherche pas une confrontation. Alors cette chaîne humaine, c'est comme la grande chaîne humaine en 2012, c'est une démarche symbolique que tout le monde, avec les enfants, avec votre chien, vous pouvez venir pour dire non, nous voulons un avenir, oui pour les énergies renouvelables et non au gaspillage d'énergie et non au gaspillage de l'argent, subvention pour... Voilà.
Alors Christina, si je ne m'abuse, vous êtes allemande. Je voudrais vous poser une dernière question, comme ça, en tant qu'être humain, citoyenne quand même de France, implantée en Ardèche, si je ne m'abuse. On a vraiment cette impression en France d'une inertie terrible et on en souffre tous. Est-ce que vous êtes quand même optimiste sur des changements qui conditionnent notre avenir quand même ? Est-ce que vous nous voyez, nous autres Français, grenouillés dans notre bain ? Est-ce que vous êtes optimiste sur ce qui pourrait arriver ou pas ?
Alors, je suis optimiste parce que c'est un peu triste de le dire. C'est une fois, je pense, la crise travaille pour nous. Ça veut dire que les gens vont réveiller. Si on a un certain confort dans la vie, on est un peu coucouné avec des jeux, avec la nourriture, avec la beauté française, la télé, les antidépresseurs, les anti-anxiolytiques. Il y a beaucoup de choses qui sont très différentes qu'en Allemagne. Je pense que si on a un certain confort, on reste tranquille. Oui, voilà. Mais le chômage touche. Il y a beaucoup de problèmes dans la crise qui montrent déjà qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Et dans d'autres pays étrangers, il y a de plus en plus de problèmes avec les réacteurs de EDF Areva. Ça veut dire qu'on voit un petit peu les plus en plus de difficultés. Et moi, je suis optimiste parce qu'en plus, il y a des exemples des autres pays, comme aussi Danemark ou la Suisse qui a décidé d'arrêter leurs centrales qui sont encore plus vieilles que les Français jusqu'au 2037. Alors, il y a des exemples autour et je pense que la France ne peut pas rester comme un pays Moyen-Âge. Pour moi, le nucléaire, c'est un peu le Moyen-Âge. Quand je voyage, quand je regarde, qu'est-ce qu'il se passe autour ?
Je veux rajouter, pour rester en France, qu'il y a eu plusieurs sondages depuis plusieurs années qui ont montré qu'il y a une majorité de Français qui veulent sortir du nucléaire.
Très bien, je vais rester sur cette note d'optimisme et je vous remercie Christine Ast et Georges Griot d'être passés ici pour annoncer cette chaîne humaine du nucléaire.
Merci.
Et je vous souhaite une bonne continuation.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Interview. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.